question sur les théiliens.
Oui.
Souvent, vous dites qu'on ne sait pas à quel point c'est important et à quel point on n'en fait pas assez.
Moi, je dis ça.
Ouais. Et on en fait pour des vraies fois, ou même comme ça, des fois, on en fait quand on n'a rien à faire, ou dans le bus. Mais justement, on les fait, c'est bien. On les comprend pas, etc. Après, même quand on les comprend, on prend les traductions, etc. On voit que c'est beau, etc. C'est lyrique et tout. Mais c'est quoi leur force, c'est quoi leur intérêt, c'est qu'est-ce que ça fait exactement? C'est quoi les Tehillim?
C'est écrit que le roi David il a demandé à Hachem que la lecture des Tehillim soit considérée comme si on étudie. Mishnayot de Negaim et Ohalot. Negaim et Ohalot, ce sont les lois de pureté et d'impureté. Negaim, ce sont les plaies de lèpre, etc. Et Ohalot, s'il y a un mort dans une tente, dans un bâtiment, dans quel cas c'est un pur, impur, c'est des lois extrêmement compliquées, non connues, non actuelles. C'est le top au niveau de la difficulté dans les Mishnayot. Et vu que le roi David il a demandé ça, donc on considère que ça a cette valeur. Bien que c'est vrai que ça ne demande pas l'effort intellectuel équivalent. Le Rav Israël, il écrit que c'est tout ce qui est un interdit extrêmement grave de la Torah, qui s'appelle Bitul Torah. Quand quelqu'un peut étudier et n'étudie pas. C'est extrêmement grave. Il faut étudier toujours, tant qu'on peut. Évidemment, on a besoin aussi de prendre quelques vacances de temps en temps, de changer les idées, de faire tous les besoins du corps. Mais quand c'est pas nécessaire et bêtement comme ça on perd son temps, c'est le pire des choses parce qu'on perd sa vie. On perd sa vie. Et Dieu nous donne une vie qui est courte, qui a une valeur énorme, il ne faut pas la perdre. Alors il écrit qu'il y a non seulement un Bitul Torah au niveau du temps dans lequel tu n'étudies pas, mais tu as aussi un Bitul Torah au niveau de la qualité d'étude. Parce que si tu fais moins d'efforts que ce que tu aurais pu faire, tu dis, ah, je vais faire Tehillim. Quelqu'un maintenant va faire Tehillim 8 heures par jour, d'accord ? Pensant qu'il va aller après au Gan Eden. Il n'y a pas au Gan Eden. Il avait une bonne tête, il aurait pu tuer la Gemara et faire beaucoup plus d'efforts, donc beaucoup plus de grandes choses pour son âme, dans les mondes supérieurs, etc. Et il n'a pas fait, il habite tout le Torah. Donc il habite tout le Torah non seulement dans le temps qu'on n'étudie pas, mais aussi en qualité. Et il donne l'exemple, si je ne me trompe pas, là-bas, des Tehillim. Il va faire Tehillim, mais ce n'est pas suffisant. Alors, il ne faut pas Tehillim du tout. Non, il faut aussi, parce qu'on a besoin aussi. Tehillim, c'est l'épanchement du cœur vers Hachem. La Gemara, c'est technique. C'est le travail des ménages. Tehillim, il a besoin de l'épanchement du cœur. Maintenant, le Rav Chaim de Volozhin, qui est élève du Gan de Vilna, donc c'est l'école vraiment de l'étude de Torah, etc., il écrit dans son livre Nefesh HaChaim, il ramène ce midrash que Dieu a demandé, que le roi David a demandé à Dieu que l'étude de Tehillim, soit la lecture de Tehillim, soit considérée comme les Mishnayot de Negaim et Ohalot. Et il dit, et le midrash ne dit pas que Dieu a accepté. Il a demandé. Mais on ne sait pas si c'était accepté. Donc, quelle est ta question maintenant?
Là, d'accord, vous m'avez dit qu'est-ce qu'on fait avec les Tehillim, etc. Qu'est-ce que ça peut, et à quoi ça correspond, etc. Mais quand on nous parle des Tehillim, vous vous rendez compte que pour faire des refouas, pour sauver des gens, on fait
c'est
des
prières. Tehillim. C'est une prière.
Non, d'accord. Mais dans ce cas-là, on ne fait pas Tehillim, on prie, on dit s'il te plaît, Hachem, sauve-la.
Oui, non, oui. Ça peut... Ok, alors David, vas-y, sauve-la. Continue. Le texte, tu pries Hachem, voilà, moi je suis Hachem, toi t'es...
Non, mais je peux faire ça pendant des heures, hein, je peux...
Vas-y, sauve-la.
Je supplie, voilà, etc., on enchaîne. Alors,
tu pourrais. Simplement, le roi David, il avait... D'abord, il avait un... Comment dire cela? Il réussissait, avec les mots en hébreu, à exprimer des choses très belles que nous, pas toujours, pouvons réussir, à son niveau, on va dire, simplement littéraire. C'est certain que ces textes sont écrits par Ruach HaKodesh, par l'Esprit Saint du roi David, et sont pleins de secrets énormes, comme les prières qui ont été instituées par une partie des prophètes. Les prières que nous avons à l'Amida, ça a été écrit après les Tehillim. Les Tehillim sont beaucoup plus vieux, donc sont à des niveaux très très hauts. Il est clair qu'il y a des secrets énormes. Quand tu dis certains mots, on sait que les lettres, elles ont un impact dans le monde supérieur. Et quand tu dis ces mots dans cet agencement, ça fait une action extraordinaire. C'est clair. Abraham de Volozhin, dans son livre Nefesh HaChaim, dont nous recommandons beaucoup la lecture, L'âme de la vie, au chapitre 3, là-bas, il parle de la prière. Il parle des niveaux de prière. concentration, après l'épanchement du corps. Puis après, il dit il y a un niveau le plus haut, le plus top qu'il puisse y avoir. C'est même pas quand tu penses le sens. Il est clair que quelqu'un qui ne pense pas ce qu'il dit, ça n'a pas beaucoup de valeur. Tu parles à Dieu, tu penses à autre chose. Bon, c'est gentil, mais c'est pas, ça ne monte pas très haut. Donc il faut penser et comprendre ce qu'on dit. Mais il y a un niveau qui est encore plus haut que cela. C'est penser les lettres. Penser les lettres, ça veut dire quoi? Tu dis Barour, tu vois, Barour. Parce qu'il est en fin de compte. Toute la prière, pourquoi elle a tellement d'action? Parce qu'il y a un agencement des lettres. Ce sont des lettres saintes. Et là, comme j'expliquais souvent ici, le mot lettre en hébreu se dit hot. Hot signifie quoi? Lettre. Et ce qui fait aussi une autre chose en hébreu, c'est quoi? Hot. Un signe. Je te fais hot, d'accord, un signe. Les lettres sont appelées signes. Pourquoi? Parce que les lettres sont des signes de quelque chose de beaucoup plus grand. Quoi? Il y a 22 forces divines énormes, encore un peu plus grandes que cela, qui sont les forces divines avec lesquelles Dieu a créé le monde. Donc, Dieu a créé le monde avec la parole. Il a parlé, il a une bouche, une langue. Il a agi au moyen des lettres. Ça, c'est l'expression de Dieu, d'accord, dans ce monde-là. Il a fait agir 22 forces qui correspondent à des lettres. Ouais, les lettres correspondent à ces forces, c'est plus précis, d'accord. Et ça crée le monde. Maintenant, nous, quand on prie, on va agir dans ces forces divines. Quand tu dis le mot « barour », que fait intervenir la lettre, la force « bête », la force « rèche », « vav » et « kaf », qui forment le mot « barour ». Si tu penses à cela, ça a plus d'impact. Ben Yisraël, il recommande de faire ça, mais il dit « ça prend beaucoup de temps ». Au moins la première bracha de l'Amida, par exemple. D'accord? Baruch, Ata, Hashem, Yudke, Vavke, etc. Donc, c'est pour ça que les Tehillim sont mieux que Sauve-la. C'est bien Sauve-la aussi. D'accord? Il faut comprendre. Dans la prière, il y a un avantage à la prière spontanée qui nous sort de notre cœur, Sauve-la, qui est celui que, vu que c'est spontané et que c'est moi qui exprime maintenant ce que je pense, donc je pense ce que je dis. Sauf là, je pense ce que je dis. Alors, ça sort les Kavana. Maintenant, ça c'est l'avantage qu'il n'y a pas dans les prières instituées par Chazal. D'accord? Je suis de la prière qui est instituée par Chazal, je vais faire maintenant Shirama, Lot, Mima, Makim. Ok, mais ce n'est pas mes mots, c'est ceux du roi David. Alors c'est pas aussi, je n'ai pas la même intention d'habitude. C'est beaucoup plus dur de mettre, en deux mots, je rentre dans les chaussures du roi David. Je préfère être avec mes propres chaussures, d'accord? C'est clair que je vais plus mieux m'exprimer quand c'est mes propres mots que les mots du roi David. Ça, le piège. Enfin, le désavantage qu'il y aurait de dire une prière qui est déjà instituée. Je dois me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et dire ce que lui a dit de dire, avec intention. Le désavantage de la prière spontanée sauve-la, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a pas aucun secret de la Torah dans le mot sauve-la, il n'y a pas d'agencement de lettres spéciaux que connaissent les prophètes. C'est une prière d'un homme simple comme nous, qui a certainement beaucoup moins d'impact au niveau de l'agencement des lettres et des mots que ceux des prophètes. Donc il y a oui un avantage d'utiliser les prières des prophètes. Alors l'avantage des prières des prophètes, c'est que c'est une échelle qui va très très haut, alors que mon échelle est très petite. Le problème, c'est que je monte très souvent, on ne monte pas sur l'échelle, parce qu'on ne pense pas ce qu'on dit. Alors ça reste une échelle virtuelle. Pour monter sur l'échelle, il faut penser ce qu'on dit. Alors mieux vaut dire notre prière à nous, que je pense, qui est très petite, mais au moins j'ai fait une prière qui veut dire quelque chose, plutôt que, je ne sais pas si c'est mieux vaut, en tout cas c'est ça l'avantage qu'il y aurait d'une prière personnelle, qu'une prière déjà instituée. On n'a pas le droit de ne pas faire de prière instituée qui sont obligatoires. Aujourd'hui par exemple, il y a une notion qui s'appelle Tfilat Nedava, une prière d'offrande. Quelqu'un maintenant, il veut offrir une prière à Dieu. Il fait ça à Amida. Il fait une Amida. Il a fait Shachrit Min Haravit. Allez, j'en fais encore une en plus pour faire une offrande à Dieu. Comme un sacrifice. Donc la prière du matin correspond au sacrifice quotidien du matin, celui de l'après-midi, du soir à consommation des morceaux de viande qui étaient mis sur l'autel qui brûlait toute la nuit. Donc ça correspond au sacrifice. Maintenant, il y a un sacrifice qui s'appelle offrande, Ola. Olat Nedava. Moi, je vais maintenant amener un holocauste Nedava, pas obligatoire, volontaire de ma part à Dieu. On peut. J'achète une vache, ça coûte 5 000 euros, et je la sacrifie au temple. Très bien, on peut faire ça. Aujourd'hui, on n'a plus de bœufs, mais on a nos lèvres. Il y a un verset de Hoshéa qui dit « Oneshalma farim satenu », on payera des bœufs avec nos lèvres. Ça veut dire que nous faisons quelque part la même action que les sacrifices grâce à nos lèvres par la prière. Donc, de même que je peux amener un sacrifice, Ola, Tnedava, d'offrande, je peux aussi faire une prière d'offrande. La halakha aujourd'hui, non. On ne fait pas ça. On le fait que dans les cas où on a un doute si on doit faire la prière ou pas, alors on va dire si d'après la vérité, je dois refaire ma prière, alors que ce soit ma prière que je dois refaire. Sinon, ça considère une prière d'offrande. Quand je n'ai pas le choix, je peux utiliser ce biais. Mais sinon, Dieu me dit, mon cher ami, les prières que je te demande déjà de faire tous les jours, Mincha, Shachrit, Mincha, Arvit, tu les fais déjà à moitié, complètement à l'envers. Et tu prononces mon nom en vain, peut-être très souvent, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu vas rajouter encore une prière? Ce que je demande de faire, fais-le. Fais pas en plus ce que je ne t'ai pas demandé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est dur, comme j'ai dit, de faire une prière avec beaucoup d'intention. Mais néanmoins, ce n'est pas une raison de se désengager de l'obligation. Les prières qui sont instituées, on a l'obligation de les faire. On doit les faire. Les prières en plus... Alors on les fera avec nos propres mots. Ah, des fois on veut des mots qui sont quand même plus intelligents, qui ont une action beaucoup plus grande, une échelle beaucoup plus haute. Teilim, on peut lire tant qu'on veut, comme on veut, il n'y a aucun problème. Ken.
Mais après vous, c'est l'importance des lettres hébraïques qui font la puissance de l'Église.
J'ai dit, c'est un plus. Maintenant, quelqu'un qui prie en français, ça a aussi un impact, mais moindre.
Pourquoi pas les Teilim le soir?
Pourquoi pas Teilim le soir? Parce que, bon, c'est une autre question ici. Il y a quatre mondes. Il y a quatre mondes. Assia, Yetzira, Bria, Atzilut. Nous, on est dans la Assia, le monde le plus bas, qui est un monde où il y a beaucoup de mal. Atzilut, c'est que du bien. C'est divin. Bria, il y a une majorité de bien. Yetzira, moitié-moitié. Assia, beaucoup de mal. Tu as ouvert les yeux, tu vois ce qui se passe autour de nous, tu comprends. D'accord? Beaucoup de mal et peu de bien. C'est donc un monde où il y a beaucoup de force, de rigueur maintenant. La nuit, c'est un moment des forces de rigueur. Maintenant, au niveau de la Torah, tu as différents niveaux d'études de Torah. Il y en a qui correspondent à Assia, Yetzira, Bria, Atzilut. Je ne sais pas exactement qui est quoi ou comment, mais je sais que tout ce qui est Mikra, c'est-à-dire les 24 livres de la Bible, le Chumash, après Yoshua, les juges, Melachim, tous les Nevi'im, et enfin les Ktuvim, dans lesquels il y a Tehilim, Yov, Michelet, Daniel, etc., Divrayamim, tous ces 24 livres de la Bible, s'appellent le Mikra, sont dans le monde de la Assia. La nuit, étant donné que c'est un moment de Assia, si on va maintenant aussi faire de la Torah qui est Assia, on amène sur nous des rigueurs, ça réveille un peu la rigueur céleste, c'est pas bien. Maintenant, c'est d'après la Kabbalah. La majorité des Ashkenazim, ils ne vivent pas trop d'après la Kabbalah, tu dors, mais arrête, ça va, c'est eux, ils étudient sans Kabbalah. Les Sfaradim sont beaucoup plus Kabbalah, donc ils font attention à cela. Mais attention, quelqu'un s'y dit maintenant, le Rav Shai, Ben Ishra, tout le monde, d'accord, ils disent, il ne faut pas étudier maintenant Tehilim ou le Mikra la nuit, bon, alors je vais faire un jeu vidéo, d'accord? Chas le Shalom. Mieux vaut des millions de milliards de fois étudier le Mikra la nuit plutôt que de faire Bikto Torah. Ne pas étudier la Torah, c'est des millions de milliards. Je te dis maintenant, entre étudier Tehilim ou bien autre chose, du Mikra ou autre chose, donc les 24 livres de la Bible ou autre chose, fais autre chose. Mais si c'est mieux vaut pas étudier parce que c'est la nuit, chas shalom. D'accord. Donc si quelqu'un maintenant il sait faire que du, il sait dire que du Mikra, ou il a envie de dire que du Mikra, qu'il lise du Mikra la nuit, il n'y a aucun problème. Celui qui a déjà les moyens de faire autre chose, c'est mieux de faire autre chose. C'est un interdit pour les hommes. Le Rav Ben Sion Abashaou, je lui ai demandé il y a une trentaine d'années, est-ce que les femmes peuvent lire Tehilim la nuit? Mais il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'elles sont, de toute façon, la femme, elle est dinim. La femme, elle est réceptrice. L'homme, il est émetteur. Émetteur, on appelle chesed, récepteur, on appelle din. Donc, vu qu'elle est din, ça ne change rien. Elle peut dire Tehilim, ça ne fait absolument rien. J'ai plus tard dans le Ben Israël qui dit exactement le contraire. Vu qu'elle est din, c'est encore pire pour elle de lire. Bon, alors, chacun fera comme son rab a dit.
Mais quand, par exemple, on a un livre qu'on lit, qu'on peut lire que la nuit, les livres qu'on a sur le chevet, ça parle de Torah, ça parle de
non,
Kabbalah.
Tout ce qui est Kabbalah, c'est aucun, c'est pas Assia, c'est que le Mikra, les 24 livres qu'on lit sans commentaire. Quelqu'un il prend maintenant Chumash, ça va pas. Chumash avec commentaire de Rashi, il n'y a aucun problème. À plus forte raison avec n'importe quel commentaire. Tu prends de la Torah avec tous les commentaires, avec n'importe quel des commentaires, ça va. Mishnah, il n'y a pas de problème. Gemara, il n'y a pas de problème. Kabbalah, il n'y a pas de problème. Kabbalah, il n'y a problème. Personne ne lit la Kabbalah. Pourquoi Kabbalah? Tu m'as dit Kabbalah, t'as des mots de Kabbalah, tu peux les jeter.
On dit pas, pourquoi Rashi se va rajouter un.
Pourquoi Rashi?
Avec Rashi, on pourra, avec les mots.
Ah, parce que du moment que tu dis maintenant du Mikra, du moment que tu dis du Mikra avec un commentaire de la loi orale, Alors c'est déjà la loi orale, elle va expliquer la loi écrite, elle doit citer la loi écrite. Donc ça va, c'est pas un problème. C'est déjà plus la loi écrite, c'est la loi orale. La loi orale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un verset de la loi écrite et elle commente. Ça va. Donc il y a nécessité que la loi orale cite la loi écrite. Pour le verset que tu as lu, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème.
En fait, le Tehilim, il réveille le jugement divin.
La nuit. Fait... La nuit, pas le jour. La nuit, au contraire.
La nuit.
Ça amène des forces de rigueur. Alors qu'au contraire, le jour, c'est. Maintenant, il y en a qui disent que si c'est après minuit, c'est plus facile. Parce qu'à minuit, il y a beaucoup moins de forces de rigueur. Qui disent aussi que si on est plusieurs ensemble à lire Tehilim, on peut autoriser. Comme la Sedaka. C'est pas bien de la Sedaka la nuit. Au niveau, c'est le truc de Kabbalah, c'est pas si quelqu'un vient, demande de l'argent, on lui donne, revenez demain matin. Non, on donne. Mais nous, aller a priori, avant la prière, c'est bien de donner à Shachrit, donner une pouta en Tzedaka, avant Mincha aussi. Avant vite, on donne pas. Pourquoi? Parce que moi, de moi-même, aller maintenant réveiller, c'est une mitzvah très grande, mais ça réveille la rigueur, parce que la rigueur, c'est quoi? C'est une mitzvah tellement grande que ça excite les forces du mal, un peu, tu m'embêtes, d'accord? C'est comme faire Sirot la nuit. Alors, on le fait après minuit. Avant minuit, c'est extrêmement grave. Yagmin, tu te rappelles les 13 attributs de miséricorde de Dieu, alors que c'est le moment de maîtrise de rigueur. C'est pas le moment. Quand il y a le moment de miséricorde de Dieu, on appelle ça miséricorde. Quand ton papa il est fâché, de furieux, tu vas pas dire maintenant s'il te plaît papa. Il t'envoie balader, d'accord, tu te tais. Quand ton cœur il est bonne humeur, là tu vas papa s'il te plaît, et là tu sais que tu as plus de chances de réussir. Même chose. Il y a des moments de rigueur, des moments de miséricorde divine. Encore la question sur le sujet ? ברוך אדוני, לא מנווה מה...